Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à deux questions dans cette présentation. Tout d'abord, la première, que vient faire la théologie confessionnelle dans l'université publique? Est-ce vraiment sa place et pourquoi l'État va-t-il instaurer cette théologie dont l'étude des textes fondateurs font partie des programmes? Et la deuxième question, quelle va être la définition, la qualification faite par l'État de cette théologie pour être apte à être intégrée dans l'université publique quand effectivement cette situation existe, ce qui n'est pas le cas en France à l'exception de la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg, puisque la faculté de théologie protestante n'a plus de lien organique institutionnel avec l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. J'essaierai de dépasser, naturellement, je vais dépasser le cadre français pour notamment m'attacher à la situation allemande, et cela d'autant plus qu'en Allemagne, comme vous le savez, ont été créés 5 instituts de théologie musulmanes qui ont pour vocation de devenir des facultés de théologie de plein exercice. Cette présentation, moins ordonnée que celle que vous avez que vous venez de faire, j'essaierai de respecter le temps également, mais vous avez bien, j'ai l'impression, bien calibré votre exposé, ce qui n'est pas mon cas, comprend 3 parties. Une première partie historique qui est absolument nécessaire pour comprendre pourquoi la théologie confessionnelle a été introduite dans l'université, une étude des mécanismes juridiques actuels qui permettent à la théologie d'être dans l'université, de trouver sa place dans l'université, et 3 exemples de tensions ou de contentieux, c'est-à-dire des affaires en France, avec le cas d'un exégète de l'Ancien Testament de 1930, Denefeld, qui a été condamné. Le cas d'un théologien musulman qui vient d'être remis en cause en Allemagne, Korchede, à l'université de Münster. Et un théologien protestant en Allemagne, Ludemann, qui s'est vu retirer sa fonction à la demande de la Confédération des Églises protestantes de Basse-Saxe. Je pense qu'il faut effectivement ne pas rester trop théorique et montrer effectivement qu'est-ce qui va créer des tensions, qu'est-ce qui va créer du contentieux, qui va entraîner la révocation des enseignants et dans certains cas aussi la remise en cause de la théologie à l'université publique. Pour le parcours historique, très rapidement, naturellement, dans les premiers temps, au cours du Moyen-Âge, on ne se posait pas la question de la formation des ministres du culte, ni à l'université, ni ailleurs. Généralement, c'est le seigneur du lieu qui construisait une église, il choisissait un serf, il l'émancipait, il le présentait à l'évêque qui l'ordonnait. Et on demandait tout juste à ce desservant de bégayer quelques formules en latin. Donc les exigences n'étaient pas très grandes. C'est une situation, naturellement, qui était atténuée aussi par la formation d'intellectuels dans les écoles cathédrales et dans les universités pontificales. Cette situation de médiocrité va être remise en cause par les Lumières, qui vont faire reculer l'obscurantisme, mais également, comme cela a été dit déjà plusieurs fois, par la réforme protestante, qui, elle, va faire le choix de la formation de ces cadres dans le cadre de l'université. Et d'ailleurs, l'habit liturgique qu'ils portent n'est pas un habit liturgique, c'est la toge noire des universitaires de théologie, les pasteurs. Donc, à partir de ce moment, au cours de la contre-réforme, l'Église catholique a dû réagir. Le Concile de Trente va imposer des séminaires pour la formation des ministres du culte, mais en réalité, ce système ne va pas marcher, tout simplement parce qu'il faut les financer, les différents détenteurs de bénéfices ne veulent pas lâcher leurs bénéfices, et donc la situation est relativement compliquée. C'est l'État qui va organiser la formation des ministres du culte. Je vais prendre l'exemple, naturellement, de la très laïque France. La première formation théologique organisée par l'État figure dans la constitution civile du clergé. C'est la constitution civile du clergé qui va fixer les critères de formation des prêtres catholiques. Et par la suite, si l'on accepte la courte période révolutionnaire, des instituts de formation vont être réinstaurés par la loi de Germinal en 10, et surtout l'université impériale en 1806 va prévoir présence de facultés de théologie catholique et protestante au sein de l'université publique. De fait, cette situation va se retrouver partout en Europe. Au Portugal, on va beaucoup insister sur la formation étatique des ministres du culte, parce que le prêtre doit être un exemple, et un exemple intellectuel également, et donc il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit correctement formé. Comme l'Église ne les forme pas correctement, c'est à l'État de les former. La même chose en Autriche, notamment sous le joséphisme, on va contrôler. L'administration va contrôler la formation de tous les ministres du culte, puisqu'il existait déjà à l'époque une grande pluralité religieuse dans l'Empire austro-hongrois. Donc c'est un souci pour l'État que de former des ministres du culte, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est celle de l'acceptation du pluralisme religieux, parce qu'au fur et à mesure, le pluralisme religieux va s'installer, et donc un clergé instruit va effectivement être source de tolérance, va créer une situation auprès de ses paroissiens qui vont permettre l'acceptation d'autres religions. Donc c'est un élément de la paix religieuse. L'autre élément, naturellement, réside dans la construction des États-nations. Et le plus bel exemple est celui de la France, où effectivement, avec le gallicanisme, on va essayer de tout contrôler, y compris les ministres du culte, pour créer cette nation qui n'existe pas. Cette manière de fonctionner, naturellement, ne va plus être en consonance avec l'État libéral et démocratique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et notamment au cours du 20e siècle, il va falloir prendre en considération les droits fondamentaux. Il ne peut plus y avoir d'intervention brutale de la part de l'État. L'État doit prendre en considération la liberté de religion et également une extension de la liberté de religion, qui est celle de la liberté institutionnelle de religion, c'est-à-dire la liberté pour les religions de s'organiser et d'organiser leur culte. Cela paraît peut-être un peu étrange, puisqu'en France, on ne parle pas beaucoup de la liberté d'organisation, mais je vous rappelle que la liberté d'organisation des cultes figure dans l'article 4 de la loi de séparation. À partir du moment où l'État n'est plus confessionnel, effectivement, l'État est neutre, et donc c'est aux confessions religieuses de s'organiser par elles-mêmes, et non pas à l'État de définir une théologie, de fixer un profil de ministre du culte, etc. etc. Donc, la théologie va finalement s'adosser, dans les universités publiques, bien sûr, va s'adosser à ces principes fondamentaux. Cela étant, différentes formes de théologie dans les universités publiques vont se développer. Beaucoup de facultés de théologie ne vont plus avoir de lien organique avec les confessions religieuses. Je pense notamment une partie des universités publiques du Pays-Bas, continue d'appeler théologie, mais en réalité ce n'est pas de la théologie. La plupart des universités publiques du Royaume-Uni, encore il ne faut pas se tromper, parce que chez eux ce qui est public est privé, privé est public, donc pas trop s'avancer sur ce domaine. La Suède. La Suède possède des facultés de théologie dans les universités publiques, mais ces facultés de théologie n'ont plus de lien avec l'Église nationale, bien qu'elles continuent de former les pasteurs. Donc, des facultés de théologie détachées, en quelque sorte, des institutions religieuses. Par contre, il existe encore des facultés de théologie dans les universités publiques qui sont co-organisées à la fois par l'État et par les confessions religieuses sur la base d'accords. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. On considère dans ces pays que la théologie, comme l'enseignement religieux dans les écoles publiques, est une matière mixte qui relève à la fois de la compétence de l'État et de la compétence des confessions religieuses. Alors, si l'on prend l'exemple le plus parlant, le plus parfait, c'est l'architecture la plus aboutie, celui de la loi fondamentale allemande de 1949, qui est donc la constitution allemande. La création d'une faculté de théologie est adossée sur trois droits fondamentaux. Premier, c'est la liberté de religion. Liberté individuelle de religion. Le deuxième principe est celui de l'autodétermination, donc de la liberté d'organisation des cultes, qui est garantie par la loi fondamentale allemande dans son article 140. C'est l'article 140 qui a repris ce qu'on appelle les articles d'église de la Constitution de Weimar et qui offre un statut aux confessions religieuses dans ce pays. Et enfin, l'article 5 de la loi fondamentale. Et l'article 5 de la loi fondamentale dit la chose suivante: l'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution. Donc, par voie de conséquence, pour créer une faculté de théologie au sein de l'université publique, il faut trouver un équilibre entre ces différents droits fondamentaux, et notamment dans le respect de la liberté d'enseignement et de recherche. Alors, cet équilibre, naturellement, n'est pas toujours facile à trouver. De manière générale, les critères sont fixés par des accords. Donc, les concordats avec, je dis les concordats, puisque chaque État fédéré a sa constitution, et les États fédérés sont compétents en matière religieuse, donc ce sont eux qui vont conclure les concordats, et non pas l'État fédéral, à l'exception, naturellement, du concordat qui a été signé avec Hitler à l'époque où il n'y avait plus d'État fédéré, puisqu'il a supprimé les États fédérés. Les accords qui sont passés avec les églises protestantes, territoriales, sur le modèle des concordats avec l'Église catholique, les accords qui sont passés avec les orthodoxes et avec le culte vieux catholique, c'est-à-dire les catholiques qui ont refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale et qui ont créé, suite à la publication de ce dogme, leur propre Église, qui en Allemagne est constituée en corporation de droit public. Pour le culte musulman, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il n'existe pas d'instance représentative reconnue par les États fédérés, d'une part, et d'autre part, les communautés musulmanes, à l'exception de la communauté Ahmadiyya, n'est pas constituée conformément à la loi fondamentale en corporation de droit public. Donc la création de facultés de théologie musulmane dans les universités publiques allemandes a posé un problème, puisqu'il n'y avait pas de partenaires. Et donc ce sont les universités elles-mêmes qui ont créé le partenaire en mettant en place, comme quoi on trouve toujours une solution, en mettant en place une commission formée de membres représentatifs envoyés par la coordination des musulmans d'Allemagne, mais qui n'ont pas de légitimité par rapport à l'État, qui ne sont pas organisés conformément à la Constitution, parce que pour être organisé conformément à la Constitution et obtenir le statut de corporation de droit public, il faut remplir un certain nombre de conditions que la communauté musulmane, actuellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne remplit pas. En tout cas, les Beiräte ont été créés en Allemagne et remplacent en quelque sorte les autorités religieuses. Dans chacun de ces exemples, effectivement, on va déterminer quels sont les droits et les devoirs à la fois de l'université et des différentes confessions religieuses. Alors, quelles sont les conséquences de ce système ? La théologie publique en Allemagne, mais également en Autriche, et comme vous le saviez, en Autriche, en 2017, à la rentrée, l'université de Vienne, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'islam, va créer une faculté de théologie musulmane, alors qu'il existe déjà dans cette même université de Vienne une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique avec des modèles différents. Et donc la faculté de théologie musulmane sera créée sur le modèle le plus souple, où il y a le moins d'intervention de la part des autorités religieuses, puisque l'Église catholique veut toujours tout contrôler. Mais enfin, quand on veut tout contrôler, in fine, on ne contrôle plus rien du tout, vous le savez. Donc, sur le modèle, cette faculté de théologie musulmane sera créée sur le modèle de la faculté de théologie protestante de Vienne. Il ne s'agit pas, dans ces différents exemples que je vous ai énumérés, de prendre une faculté de théologie et de la transplanter telle qu'elle dans l'université. Non, puisque ces facultés de théologie, dans le cadre du respect de l'article 5, liberté d'enseignement et de recherche, doivent respecter un certain nombre de critères. Alors, tout d'abord, ces facultés de théologie doivent être des facultés de théologie scientifique au sens où le tribunal constitutionnel fédéral définit la science. C'est-à-dire le tribunal constitutionnel fédéral, puisqu'en Allemagne il existe un véritable tribunal fédéral constitutionnel, et pas uniquement un conseil constitutionnel avec des membres nommés par les différents présidents de l'exécutif et du gouvernement. Et donc, ce tribunal fédéral constitutionnel a eu l'occasion de définir ce qu'est la science dans le cadre de l'université. Et donc, les facultés de théologie vont devoir se caler sur cette définition de la science. Tout d'abord, les enseignants et chercheurs vont utiliser les méthodes académiques telles qu'elles sont définies dans le cadre des lois universitaires. Donc c'est exactement la même démarche également en France, où il y a une explicitation de la liberté d'enseignement et de recherche dans le code de l'éducation. Donc on ne peut pas... Cela n'est pas seulement anecdotique, c'est pas un élément isolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut instaurer un autre modèle, il faut changer le modèle, non pas seulement du fonctionnement de l'université, mais de l'État démocratique et libéral, puisque c'est fondé sur un socle de valeurs communes, et donc la théologie doit se conformer, quand elle est dans une université publique, à ce socle de valeurs. Donc la science ne doit pas être limitée par des éléments extérieurs. Là, je vous cite la définition qui est donnée par le tribunal constitutionnel fédéral. Elle doit faire obstacle à l'irrationnel. Elle doit faire preuve de... Après, naturellement, il faut expliciter. On verra dans les exemples. Elle doit faire preuve de critique rationnelle, de réflexion méthodique et de capacité d'innovation. C'est parfois difficile dans la théologie, même catholique. Parfois des efforts à faire. Là, je suis moi-même catholique, donc j'ai la même liberté que vous de parler du catholicisme. Donc ça, c'est un premier élément par rapport notamment à la définition constitutionnelle. Le deuxième élément, c'est que pour l'État allemand finance un nombre, je ne les ai pas en mémoire, un nombre incalculable de facultés de théologie protestante, catholique, vieille catholique et orthodoxe, et maintenant musulmane, au sein des universités, des différentes universités allemandes. D'ailleurs, une université sans faculté de théologie protestante et catholique a longtemps été considérée comme une université imparfaite, en quelque sorte, en Allemagne. Donc, dans certains pays de l'Est, même quand il n'y a plus de catholiques, on crée une faculté de théologie catholique. Enfin, on créait, à l'époque, il y avait encore un peu d'argent. Maintenant, on est un peu plus regardant. Donc, cela fait partie du socle des matières enseigner. Mais la théologie est importante pour l'État, puisqu'elle va contribuer, elle a une utilité. C'est-à-dire que l'État ne va pas simplement s'intéresser à la théologie, parce que c'est une matière, disons, tout à fait sophistiquée et qui est intéressante. Non, c'est parce qu'elle est utile au bon fonctionnement de la société et de l'État. C'est pour l'État allemand, la théologie va avoir une fonction d'intégration et une fonction de construction, ce qui a déjà été signalé auparavant, de paix religieuse. Et donc, par voie de conséquence, il faut également, pour que cela fonctionne, parce que l'idée est la suivante, c'est que les cadres religieux et les professeurs de religion dans les écoles publiques vont suivre les cours de théologie et ensuite vont naturellement propager, diffuser ces idées auprès des étudiants, auprès des écoliers et auprès des paroissiens. Et donc, il va y avoir un effet perceptible d'intégration de la pensée religieuse, non seulement à haut niveau des cadres religieux, mais également de toute la population religieuse. Mais pour que cela fonctionne, il faut naturellement que ces théologiens, ces facultés de théologie, soient légitimes par rapport aux organisations religieuses. Donc, à partir du moment où il y a un conflit entre l'université, l'État et les communautés religieuses, le système ne fonctionne pas. Donc, il faut toujours marcher avec un exemple intégré, avec ce modèle intégré, où effectivement tout le monde est d'accord autour à la fois des personnes et du contenu de l'enseignement. Voilà, donc je redis, je vais aller un peu plus vite là. Maintenant, vous avez dit que vous me laissez un quart d'heure de plus, non? Non, au cours du repas, j'avais cru comprendre ça. D'accord, 5 minutes, donc je vais passer aux exemples. Tout d'abord, pour conclure cette partie, effectivement, il ne s'agit pas de théologie confessionnelle sans contrôle de l'État, mais de théologie qui va être finalement donné au prisme des droits fondamentaux, puisque sinon cela renverrait à un autre modèle qui est celui de l'État confessionnel. On peut effectivement imaginer, comme l'Espagne de Franco, des facultés de théologie qui vont dispenser le catéchisme de l'Église catholique, lequel catéchisme qui va être intégré et accepté par l'administration, l'État et les populations. Là, on est dans un système de séparation. Alors, trois exemples. Premier exemple, c'est celui de Gert Ludemann, qui est professeur à la faculté de qui l'est toujours d'ailleurs. Je vous expliquerai, professeur de faculté de théologie protestante de Göttingen et professeur d'exégèse du Nouveau Testament. Donc là, on est dans l'exemple des textes fondateurs. C'est un spécialiste des ipsissima verba, donc de ce que le Christ a vraiment dit dans les évangiles, enfin de ce que Jésus a vraiment dit dans les évangiles. Donc on estime que c'est à peu près 5% des évangiles. Tout le monde est d'accord là-dessus. La position de Ludemann, c'était quand même de dire « bah oui, il n'y a pas grand-chose, et puis le reste, ça a été falsifié. Finalement, on a utilisé la Bible pour des raisons idéologiques, pour faire passer des idées, pour convaincre des gens, pour en exclure d'autres, etc., etc. Et que tout ce qui concerne la résurrection, l'Eucharistie, la fin des temps relève effectivement de cette falsification. Naturellement, la Confédération des Églises protestantes d'Allemagne a protesté. C'est une confédération qui rassemble 5 églises territoriales protestantes, et le président de l'université a essayé de réaffecter Ludemann dans une autre faculté, parce que dans ce type de conflit religieux, on ne peut pas licencier la personne. C'est un fonctionnaire des États fédérés, et donc il conserve son poste. Donc il a essayé de le mettre en philo. Mais personne n'en a voulu. Je pense qu'il y avait aussi des problèmes de posture psychologique. En tout cas, in fine, il est resté à la faculté de théologie protestante. Mais il ne pouvait plus enseigner au futur pasteur, et surtout on lui a envoyé tous les moyens, on lui a enlevé tous les moyens, c'est-à-dire les assistants qu'il avait, mais également la dotation, puisque vous savez que les Lehrstühle en Allemagne sont de véritables petits centres de recherche avec leur bibliothèque propre, leurs assistants, leurs collaborateurs scientifiques. Et là, il s'est retrouvé dans, le modèle français de professeur des universités, avec sans assistants, sans dotation, voilà. Donc, comme quoi, certains modèles ont quand même leur vertu. Naturellement, ça l'a fait réagir, et il a introduit un recours auprès des juridictions administratif fédéral, et puis in fine c'est passé devant de nouveau le tribunal constitutionnel fédéral, qui dans une décision du 28 octobre 2008, donc c'est relativement récent, a certes constaté une atteinte à la liberté de la science, mais a considéré cette atteinte était justifiée par la loi fondamentale, donc l'article 140, qui garantit le droit de la faculté de maintenir son identité de faculté de théologie en vue de former des théologiens protestants et des pasteurs. Donc ce qui était le plus important, c'était effectivement à la fois le droit institutionnel de l'Église protestante, mais aussi le droit de l'État d'avoir une faculté de théologie qui forme des pasteurs qui vont ensuite être reçus, acceptés par les croyants. La deuxième affaire, c'est celle de...
Pardon ? Les deux derniers exemples.
Oui ?
Les deux derniers exemples. Il reste 2 minutes.
D'accord. Mais on peut être rapide. Hein. Il s'agit de... je voulais quand même retenir également un exemple français. C'est Louis Denefeld, qui était professeur à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg, spécialiste en Ancien Testament, et qui a produit un ouvrage sur le messianisme, qui a été immédiatement dénoncé par un collègue à lui, qui était aussi professeur d'Ancien Testament de Lyon et qui avait lui aussi produit un manuel d'écriture sainte. Donc c'est comme ça que ça se passait. Donc cet ouvrage a été déféré au Saint-Office. Ce qui a été contesté, c'est le faux principe herméneutique qui consiste à étudier les prophéties de l'Ancien Testament pour elles-mêmes, dans leur contexte, et non pas à la lumière du Nouveau Testament. Ils devaient étudier les prophètes de l'Ancien Testament à la lumière de ce que dit le Nouveau Testament, et donc en quelque sorte faire de la théologie. Il a été... la position de Denefeld, la réponse était qu'il étudie les idées messianiques telles qu'elles apparaissent à qui les considère englobées dans leur contexte, enracinées dans leur milieu. Après, naturellement, l'affaire ça s'est enchaînée. Ils ont voulu le condamner. On lui a demandé d'écrire un texte de rétractation. Mais enfin, à l'époque, écrire un deuxième texte, c'était de toute façon aller vers une condamnation. Donc le doyen de la faculté de théologie catholique, qui connaissait tout ce petit monde romain, a dit « Ah ben non, surtout pas, faut pas, parce que c'est un Alsacien et il a été formé à l'allemand, donc c'est une pensée grossière. Il ne va jamais réussir à même subtilité parisienne. Finalement, il a été condamné par un décret du Saint-Office, mais le dossier est passé à la secrétaire d'État, et c'est le pape lui-même qui s'en est occupé, Pie XI, qui a dit « Oui, bon, c'est vrai, tous ces gens-là, ils sont dans une université publique, donc ils sont en contact avec des protestants, et encore pire, des libres penseurs, et donc voilà le résultat. Mais on ne peut pas faire grand-chose, puisque Strasbourg... venait de maintenir sa faculté de théologie catholique. Si on commence à renvoyer les professeurs, ils vont nous la supprimer. Et donc voilà, il a été condamné. Et puis on verra, il faut maintenant qu'il fasse mieux. Donc ça s'est terminé par des chansons. Mais là, je vais pas. J'ai encore l'exemple de Mohamed Korchide en Allemagne, donc que j'ai gardé pour la fin parce que je savais très bien qu'on allait me dire de le présenter. Mohamed Korchide est professeur au Centre de théologie islamique de l'Université de Münster et a publié un ouvrage qui s'appelle « Islam is Barmherzigkeit », qu'on peut traduire par « l'islam est compassion », donc fondement d'une religion moderne. Ce livre a soulevé un tollé de critiques et donc la coordination des musulmans d'Allemagne a demandé une évaluation de cet ouvrage. Cette évaluation a été faite par une demi-douzaine de spécialistes de l'islam, souvent de jeunes spécialistes, des doctorants. Et les critiques sont les suivantes. Les critiques de ce rapport d'évaluation, c'est de dire il n'est pas possible de remettre le Coran dans son contexte historique. Vous pouvez retrouver le rapport sur Internet. L'approche historico-critique utilise les méthodes des théologies chrétiennes, alors que la théologie musulmane doit définir sa propre méthode. Cela étant, je pense qu'ils sont quand même, ça mérite discussion bien sûr, mais ils sont quand même légèrement trompés dans la mesure où les méthodes qui sont mises en œuvre pour les théologies chrétiennes sont les méthodes de sciences humaines et sciences sociales de l'université et de l'université publique. Et par ailleurs, ce qui a été reproché, c'est l'instrumentalisation du Coran en vue de démontrer son caractère, le caractère compatible de l'islam avec la société contemporaine. Là, il n'y a pas encore de décision. Je vais m'arrêter. Il n'y a pas de décision qui a été prise, puisque le Bayrat de l'université de Münster s'était jamais réuni. Il vient d'être reconstitué. Il va devoir prendre une décision. On verra quel va être le résultat de ces cogitations. Voilà, je ne ferai pas de conclusion et je vous remercie pour votre attention.